Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Le désir de nature. Bonjour à toutes et tous. Notre époque a ouvert plusieurs fronts pour placer la nature au cœur du débat public. Un front central qui fait de la ville saturée et polluée le lieu même du combat pour la diminution des voitures thermiques, pour des circulations douces, pour sa réappropriation par les piétons et surtout pour sa reconnexion avec la nature. Le désir de renouer avec la nature se niche tout autant dans le développement des AMAP que dans la volonté de végétaliser la ville, dans la défense des animaux comme dans la lutte contre un capitalisme aveugle. L'épidémie de Covid-19 est venue parachever la critique d'un certain mode de vie occidental avec lequel il faudrait rompre d'urgence. Et les confinements ont été marqués par la disparition des agressions sonores, des foules de travailleurs dans les transports et l'apparition d'un temps pour soi. Un autre front en faveur de la nature se tient dans la redécouverte éclairée de la faune et de la flore qui nous entourent, la redécouverte de 1000 plantes comestibles ignorées et la réappropriation de savoirs oubliés qui n'ont pas été transmis quand les divers exodes ruraux ont commencé. Comme si les hommes et les femmes des villes se sentaient désormais coupés de terroirs et de savoir-faire qui leur paraissent maintenant importants. Le dernier front est partisan. Aux dernières élections européennes, on comptait deux listes écologistes, un parti animaliste et un parti de la décroissance. L'écologie politique se veut de moins en moins une perspective marginale, mais bien une solution crédible pour un avenir que les collapsologues et les rapports inquiétants du GIEC prédisent apocalyptique. Comment lire ce désir de nature? Il répond à la fois à une hygiène de vie, à une nouvelle ASES très New Age pour se retrouver soi-même et prendre soin de son corps, et à une volonté assumée de retourner à la nature, à des formes de puissante sauvagerie que la vie citadine aurait fait oublier. Sous des formes d'ailleurs très variées, des séances collectives de jeûne au survivalisme militarisé, les acteurs du retour à la nature n'ont pas tous les mêmes objectifs ni les mêmes pratique. Nous allons évoquer tout cela avec mes invités, Sébastien Dalgalarondo et Tristan Fournier, qui viennent de publier L'Utopie sauvage, enquête sur notre irrépressible besoin de nature, aux éditions Les Arènes. Bonjour Sébastien Dalgalarondo.
Bonjour.
Sébastien Dalgalarondo, vous êtes chargé de recherche en sociologie au CNRS, spécialiste de l'innovation médicamenteuse, de la démocratie sanitaire et du phénomène qu'on appelle l'optimisation de soi, dont l'ensauvagement fait partie. Vous nous en parlerez. Bonjour Tristan Fournier.
Bonjour.
Tristan Fournier, vous êtes également chargé de recherche en sociologie au CNRS, spécialisé en anthropologie de l'alimentation et des pratiques alimentaires, et vous êtes tous les deux rattachés à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS. Je voudrais qu'on commence cette émission par la question de l'écriture, et de l'écriture pour laquelle vous avez opté dans votre ouvrage L'Utopie sauvage. Vous êtes tous les deux universitaires, mais votre ouvrage est écrit dans une langue accessible, parfois même très humoristique. Il y avait une volonté de rompre, en tout cas pour cet ouvrage-là, hein, vous avez évidemment d'autres publications très académiques, mais de rompre avec les pesanteurs de l'écriture universitaire. Sébastien Dalgalarondo.
Oui, effectivement, ce livre, d'ailleurs, il est publié dans une, chez un éditeur qui ne publie pas a priori des textes académiques, même s'il y en a. Donc on peut dire oui qu'il y avait une volonté chez nous de modifier notre écriture et de se rendre plus accessible. C'est ce qu'on théorise autour de la notion de sociologie modeste. Donc ce n'est qu'une partie de notre travail, mais ça vient de la nécessité de se donner les moyens de dialoguer avec un plus large public et donc d'abandonner dans ce dialogue certains rituels académiques de démonstration et s'efforcer aussi d'être accessible. Donc ça, c'est un énorme enjeu, c'est très difficile de se rendre accessible. On a quelques chercheurs collègues qui nous font le plaisir de nous lire, mais notre ambition, c'est quand même d'être lu par des individus qui ne lisent absolument jamais de sociologie. Voilà, ça, c'est l'ambition première de cette écriture modeste et aussi de cet ancrage du récit à travers des expériences personnelles. C'est une manière de démontrer au lecteur que nous ne sommes pas dans une position surplombante. Nous sommes comme lui, à tâtons, en train de chercher des solutions. mais que avec nos différentes méthodologies, nos théorisations, on se donne peut-être les moyens d'un peu plus de réflexivité, mais voilà, on ne va pas beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, certains sont déçus parce qu'on ne propose pas de solution. On a vu quelques critiques comme ça. Mais l'objectif, c'est absolument pas de proposer des solutions ni d'incarner une voie, une utopie réelle. Non, pas du tout.
Oui.
Se mettre à la portée.
Vous êtes prudent, effectivement, et l'ouvrage n'est pas militant de ce point de vue-là. Alors, vous parliez d'une position personnelle. Il y a effectivement, et vous l'indiquez très vite dans l'ouvrage, vous-même, les deux auteurs, vous êtes traversés fortement par ce désir de nature, peut-être depuis plusieurs années. Et donc, est-ce que l'ouvrage sert à essayer de comprendre ce qui vous arrive, c'est-à-dire d'où vient pour vous-même ce désir de nature? Est-ce qu'il s'agit d'interroger cette pratique? Est-ce qu'il s'agit aussi, et peut-être en même temps, de la mettre un peu à distance, ou en tout cas de mettre à distance ce désir de nature. Tristan Fournier.
Oui, peut-être juste rappeler brièvement quelques éléments biographiques, parce qu'ils permettent de mieux comprendre la genèse de cet ouvrage, finalement. Très vite, donc, en fait, on a tous les deux grandi à la campagne, Sébastien dans le Gers, moi en Haute-Savoie. Donc des contacts quotidiens, et je dirais très libres avec la nature, dans laquelle on déambule, on joue, on apprend à la connaître. Et puis, cette socialisation particulière, je crois qu'on a eu envie de la transmettre à nos enfants respectifs. En tout cas, moi, ça explique en partie le fait d'acquérir une grange en Ariège, il y a quelques années, une grange nichée au cœur de la forêt des Pyrénées. Et très vite, j'ai invité Sébastien à venir y passer des vacances, parce qu'on est collègues, mais on est aussi amis. C'est à ce moment-là que je dirais que le personnel rejoint le professionnel. Puisque certaines activités de loisirs que l'on va pratiquer là-bas vont faire écho à nos réflexions académiques, je dirais. Sébastien, vous l'avez dit, il est sociologue de la santé, moi de l'alimentation. Et par exemple, quand on va faire une journée d'initiation à la cueillette de plantes sauvages comestibles et médicinales, on va retrouver nos thèmes de prédilection, que sont la démocratie sanitaire, la nutrition, le politique, la question de l'autonomie alimentaire, etc. Et c'est pour ça donc, que la grange va devenir le centre névralgique de nos réflexions personnelles, professionnelles. Et c'est surtout pour ça qu'elle est logiquement devenue la narratrice de l'ouvrage.
Mmh. Oui, vous la faites parler à plusieurs reprises. Elle a une position de borne témoin historique. Et alors, je voudrais qu'on rentre dans le cœur de ce qui fait votre ouvrage, c'est-à-dire au fond les pratiques et puis les signes de cette utopie sauvage. Et un premier signe sur lequel vous insistez en début d'ouvrage, c'est la redécouverte nostalgique d'une figure très particulière, qui est cette figure du chasseur-cueilleur, donc le fameux chasseur-cueilleur qui incarnerait, en tout cas dans les discours que vous analysez, qu'incarnerait une espèce d'idéal humain perdu. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chasseur-cueilleur, figure qui a existé durant le paléolithique? Sébastien Dalgalarando.
Effectivement, nous avons tenté de regrouper toute cette utopie sauvage au travers d'un concept qui est celui de la promesse du chasseur-cueilleur, ou du jeûneur-cueilleur, pour moderniser un peu le concept. Mais en tout cas, cette promesse du chasseur-cueilleur, c'est juste un moyen de rendre compte d'une pensée contemporaine sur la nécessité de nous rapprocher de notre physiologie ancestrale, celle dans laquelle nous serions encore emprisonnés. Alors donc là, on fait référence à toute une théorisation surtout anglo-saxonne, donc notamment la psychologie évolutionniste, la nutrition évolutionniste ou la médecine évolutionniste, avec cette idée que nous serions enfermés dans le corps d'un homme du paléolithique, et que notre cerveau serait adapté à cette vie paléolithique, et que tous les désordres, toutes les maladies contemporaines seraient en quelque sorte le produit de ce mismatch, c'est-à-dire cette disharmonie ou ce décalage entre notre corps et notre cerveau d'homme des cavernes et notre vie hyper-urbaine et post-moderne. Donc c'est le socle sur lequel s'appuie cette promesse du jeûneur-cueilleur, tout l'enjeu étant ensuite, à travers des pratiques, de se rapprocher de cette vie de l'homme du paléolithique, soit à travers l'alimentation, soit à travers on peut imaginer des stages de méditation qui nous rapprochent comme ça de la vie apaisée de l'homme du paléolithique. Bon, voilà. L'idée, c'est de se rapprocher à travers des pratiques de ce mode de vie. Alors, bien sûr, le régime paléo que les auditeurs doivent connaître, c'est-à-dire cette idée de manger comme l'homme du paléo pour améliorer sa santé à travers son alimentation est un exemple connu de cette promesse du jeûneur-cueilleur. Ben voilà. Donc maintenant, l'homme de référence, c'est en termes de sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan politique, on y reviendra ensuite. L'homme de référence, c'est le chasseur-cueilleur et son environnement, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au sauvage, à la forêt, voilà, son milieu naturel. Donc, avoir une vie harmonieuse pour beaucoup des auteurs contemporains consisterait à se rapprocher de ce mode de vie.
Alors, y compris dans une forme très biologisée ou essentialisée, vous analysez les écrits de Yuval Noah Harari, qui est un auteur à succès. Et alors lui, il en fait vraiment, non pas simplement une figure historique ou une figure d'un état de nature qu'on aurait perdu, il exprime l'idée que le chasseur-cueilleur incarnerait la vraie nature de l'homme dont nous serions coupés et dont la civilisation nous aurait coupés. Donc il y a même une dimension très biologisante et essentialisante dans cette figure du chasseur-cueilleur.
Oui, alors, c'est vraiment ce qui nous intéresse au plus haut point. Je vous remercie de le remarquer, mais j'ai un texte de Harari où il dit « Nos cerveaux et nos esprits sont adaptés à une vie de chasse et de cueillette ». Et donc, on a là l'incarnation parfaite de cette courroie de transmission entre une science évolutionniste qui peut être encore très controversé, et des usages, une sorte de biologisation du social au travers d'un ouvrage qui a été lu par beaucoup de monde. Et on peut être surpris par le fait que peu de gens, notamment des sociologues ou des politologues, se sont intéressés en fait à cette idéologie cachée qu'il y a derrière cet argument primitiviste. C'est-à-dire, si notre vraie nature, c'est l'homme du paléolithique, c'est plus à peine de faire de la sociologie ou de la science politique ou même de la politique. Ben, régressons et on retrouvera ainsi notre état de nature et tout sera harmonieux. Donc voilà, c'est une pensée politique un peu qui révèle notre incapacité peut-être à penser l'avenir, en tout cas, voilà.
Oui, à se réfugier dans un passé mythique. Alors ça va loin quand même, parce que dans ce type d'écrit qui réhabilite la figure mythologique ou historique du chasseur-cueilleur, il y a par exemple un refus de tout ce qui vient du néolithique. Alors par exemple des aliments relevant du néolithique, c'est-à-dire les céréales, les laitages, un refus de l'élevage, un refus de l'agriculture, parce qu'au fond, à l'échelle de l'humanité, ce serait très récent, ce serait 8000 ans ce néolithique, et donc finalement c'est une espèce d'anomalie par rapport à la figure ancestrale du chasseur-cueilleur. Sébastien Dalgalarando et puis Tristan Fournier.
Oui, maintenant je donnais la parole à
D'accord.
Tristan,
bon,
je vais la prendre, excusez-moi. Effectivement, oui. Alors, juste sur le plan politique, par exemple, c'est intéressant parce que l'avantage du chasseur-cueilleur, c'est que c'est une sorte de page blanche sur laquelle on peut projeter tous nos fantasmes, en sachant qu'on sait assez peu de choses sur la vie de l'homme du paléolithique, même si nos collègues travaillent très fort, mais c'est quand même beaucoup de suppositions. Enfin, on n'a pas grand-chose sur leur vie ordinaire et leur mode de pensée, mais donc, comme c'est une page blanche, tout le monde peut s'y projeter. Les plus réactionnaires, aux plus spiritualistes, peu importe. C'est une page blanche avant l'État, avant la religion, avant même le langage, si on va chez certains qui voudraient revenir au temps d'avant du langage. Voilà, donc c'est une page blanche sur laquelle on peut facilement se projeter. C'est là toute l'utilité, en fait, de cette référence au chasseur-cueilleur.
Tristan Fournier, sur le refus du néolithique qui serait une espèce de perversion d'un fonctionnement idéal de la société humaine et de l'individu que le paléolithique incarnerait.
C'est vrai que la révolution néolithique, donc il y a 8-10 000 ans, comme vous le disiez, elle incarne justement le passage des sociétés pré-industrielles aux sociétés nouvelles, on va dire, dans lesquelles il y a une forte division sociale du travail, notamment. Et c'est ce qui va être largement critiqué par tout ce courant qu'on appelle l'anarcho-primitivisme, hein, qui pense que, dont l'idéologie est de dire que c'était mieux avant, entre guillemets, parce que pour des raisons de vie quotidienne, de rapports de pouvoir, hein, entre hommes et femmes notamment, il y a une idéalisation des rapports de genre avant, enfin en tout cas dans les sociétés pré-industrielles, ce qui est très controversé évidemment, mais il y a tout un tas de rubriques comme ça qui correspondent au fait que les ennuis seraient arrivés avec la révolution du néolithique. Sur l'alimentation, ça se voit très bien, et ça se voit même chez des auteurs qui sont moins polémiques, peut-être plus académiques aussi. Je pense par exemple à James Scott, hein, qui a écrit un ouvrage très discuté récemment, qui s'appelle Homo Domesticus, et dans lequel il ne va pas jusqu'à dire que, bien sûr, les sociétés pré-industrielles étaient mieux que les nôtres, mais il invite à considérer le fait que peut-être que celles-ci vivaient de manière un petit peu plus harmonieuse, peut-être même un peu plus longtemps, parce qu'elles avaient un accès à l'alimentation plus diversifié. Hein. Il montre combien les débuts de l'agriculture et l'élevage ont produit des traumas sur les squelettes retrouvés des éleveurs de cette époque, une plus grande malnutrition, etc., etc. Donc il y a aussi c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est assez facile en même temps de critiquer cette espèce d'idéologisation des sociétés pré-industrielles, et en même temps il y a un fort intérêt à regarder combien leur vie pouvait être différente de la nôtre.
On se réfugie effectivement dans un passé, on interroge un passé pour essayer de résoudre les problèmes du présent. Je voudrais qu'on écoute un extrait que vous avez choisi. Alors c'est Guillaume Gallienne qui lit un passage du livre de Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, paru en 1854.
Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie est si chère. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. Couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa simple expression, et si elle se découvrait mesquine, eh bien alors, en tirer l'entière, authentique mesquinerie, puis divulguer sa mesquinerie au monde. Ou, si elle était sublime, le savoir par expérience, et pouvoir en rendre un compte fidèle dans ma suivante excursion. Encore vivons-nous mesquinement comme des fourmis, tels des pygmées nous luttons contre des grues. C'est là erreur sur erreur, rapiessage sur rapiessage, et c'est une infortune superflue autant qu'évitable qui fournit à notre meilleure vertu l'occasion de se manifester. Notre vie se gaspille en détails. Un honnête homme n'a guère besoin de compter plus que ses 10 doigts, ou dans les cas extrêmes peut-il ajouter ses 10 doigts de pied et mettre le reste en bloc. De la simplicité. Et si au lieu de fabriquer des traverses et de forger des rails, et de se consacrer jour et nuit au travail, nous employions notre temps à battre sur l'enclume nos existences pour les rendre meilleures. Passons un seul jour avec autant de mûre réflexion que la nature. Levons-nous tôt et jeûnons, ou déjeunons tranquillement et sans trouble.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, le désir de nature. Nous sommes en duplex avec Sébastien Delgalarondo et Tristan Fournier. Alors pourquoi avoir choisi cet extrait ? C'est devenu mythique, un peu Thoreau, là. C'est utilisé de tous les côtés. Dites-nous.
Oui,
Sébastien Delgalarondo.
C'est le nouveau Che Guevara de la question écologique. Non, ouais. Ce qui nous a intéressé à travers cet auteur, c'est de voir comment il était approprié par des tendances politiques extrêmement diverses, donc de l'extrême droite réactionnaire condamnée antisémite à des mouvements de gauche autonomistes, communalistes. Donc c'est un point de jonction, et cela nous permet bien sûr de réfléchir à au risque, en tout cas, aux idéologies cachées derrière ce discours du retour à la nature. Donc, tout en rappelant que, bien sûr, nous sommes nous aussi dans une démarche de retour à la nature, mais ce qui nous a semblé intéressant de mettre en exergue à travers l'étude de cet auteur, c'est son appropriation politique, c'est de montrer les pentes réactionnaires, notamment dans ces discours du retour à la nature. C'est-à-dire, les fascistes valorisaient le berger montagnard. Bon, maintenant, on est sur une valorisation de la sauvagerie, du primitif, des peuples premiers, de leur contact avec la nature. Voilà. Bon, ça, on retrouve ça dans plein de discours d'extrême droite, mais beaucoup plus anciens, hein, comme les discours eugénistes avec Alexis Carrel. Bon, on a ce désir de sauvagerie pour sauver quelque part la dégénérescence de l'homme, hein, dans la société moderne. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est les arrimages nouveaux qui se créent. Il y a de la nouveauté quand même dans ce retour de la nature, et il y a des arrimages nouveaux. Alors, bien sûr, vous avez parlé de la collapsologie, mais il y a aussi cette question de la santé qui nous intéresse beaucoup, parce que ce retour au primitif, il n'est pas que politique, il est aussi arrimé à des questions très, très importantes dans nos sociétés, celle de la santé. Voilà. Et donc, on a des idéologies qui s'entremêlent de manière très différente par rapport à ce qu'on a pu connaître, bien sûr, dans ces différents cycles de retour à la nature.
Il y a quelque chose de l'ordre d'une Robinsonade moderne dans la démarche là de Thoreau, c'est-à-dire partir seul dans la nature pour fuir la ville, pour fuir la civilisation, essayer de se débrouiller. Et vous évoquez dans votre ouvrage, on parlait tout à l'heure de l'essentialisation, il y a aussi une extrême valorisation de l'idée d'instinct naturel, dont se méfient beaucoup les sciences sociales, parce que voilà, dès qu'on déconstruit un peu, ça trouve vite ses limites. Alors vous avez des pages très intéressantes et drôle à lire, où vous décortiquez une émission de télé qui reposait précisément sur ce retour à l'instinct primaire, parce qu'elle s'appelle comme ça, je crois, d'ailleurs, retour à l'instinct primaire. Qu'est-ce que c'est que cette émission et qu'est-ce qu'elle nous dit, y compris dans ses ratages, en fait, hein, dans sa volonté de relancer la figure du chasseur-cueilleur, Tristan Fournier?
Oui, donc cette émission, retour à l'instinct primaire, très rapidement, l'idée, c'est de mettre en scène un homme et une femme dans chaque épisode qui sont entièrement nus et qui vont devoir se débrouiller par eux-mêmes et survivre pendant 3 semaines. Ils ont droit à un outil chacun, donc il y a toute une mise en scène qui est faite comme ça. Donc on a pris beaucoup de plaisir à décortiquer, évidemment. Ça disait beaucoup justement de ce rapport à l'instinct duquel les sciences sociales se méfient beaucoup, comme vous l'avez mentionné. Et puis, ça disait beaucoup de choses sur le genre, sur la mise en scène de ces nouvelles Robinsonades. Donc, nous, c'est vrai qu'on a appréhendé à la fois cette émission non télévisée de survie, mais aussi d'autres enquêtes de terrain qu'on met en scène dans notre ouvrage, notamment des stages de jeûne et randonnée, des stages de cueillette de plantes sauvages, comme des Robinsonades. Alors, pourquoi des Robinsonades? Parce qu'on était très attentif au processus, c'est-à-dire à qu'est-ce que ces parenthèses temporelles peuvent produire ou ne peuvent pas produire. Donc nous, on fait référence au Robinson de Tournier, hein, de Michel Tournier, qu'on préfère au Robinson originel. Pourquoi ? Parce qu'il a une trajectoire morale très intéressante, ce Robinson. Hein, on le voit, il commence par vouloir domestiquer son île, et puis, dans le livre de Tournier, et puis, vous vous souvenez de l'histoire, hein, Vendredi fait par mégarde exploser toutes ses munitions, ses réserves de nourriture, et Robinson va finalement renaître de ses cendres, en quelque sorte, apprendre par l'expérience et mieux vivre finalement au contact de la nature grâce à Vendredi. Donc il y a une trajectoire morale très intéressante à considérer et on a eu envie tenter de l'appliquer à nos enquêtes de terrain qui mettaient en scène des Robinsonades modernes. Donc comment est-ce qu'on s'est positionné par rapport à cela? Finalement de deux manières, je dirais. La première, c'est d'adopter une posture critique de prime abord. Et qui est assez proche finalement d'une posture d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit sur le rapport au temps, le rapport moderne au temps. Et Hartmut Rosa parle d'oasis de décélération. Il prend l'exemple des vacances, hein, et il dit, est-ce que finalement ces vacances-là, qu'on considère comme une pause salvatrice, ça ne serait pas seulement une espèce de sas de réarmement du néolibéralisme, hein, pour revenir performant à la rentrée? Donc, une première posture un peu critique, hein, qu'on pourrait même rapprocher de toute la question du développement personnel, hein, qui est assez dépolitisante. Et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, ça serait quelque peu une vision paresseuse de s'arrêter à cette critique-là. Hein, dans ces espaces, dans cette temporalité particulière, dans ces parenthèses temporelles que sont les Robinsonades modernes, eh bien, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder ce qu'elle pouvait produire en termes de moments de transformation, de, par exemple de sensibilisation ou d'action en faveur de l'écologie. Et donc, ça nous semble important d'être attentif à cette question du processus. Hein, en ce moment, on parle beaucoup de sérendipité, hein, cette idée de découvrir en faisant et parfois par hasard. Eh bien, il nous semble que ce mécanisme, il peut opérer durant les Robinsonades modernes que peuvent être soit le fait de regarder ces émissions de télévisées, soit de faire un stage de jeûne ou de cueillette de plantes sauvages, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que, je vous donne un exemple, si vous venez découvrir les vertus nutritionnelles des plantes sauvages lors d'une journée d'initiation à la cueillette, c'est une ambition assez utilitariste, eh bien, il peut arriver que, et de son cas, on l'a rencontré dans nos enquêtes de terrain, qu'on reparte avec une vision assez bouleversée hein, des relations que l'on entretient avec le monde végétal. On va passer, par exemple, d'une relation de sujet à objet à une relation plutôt de sujet à sujet. Et donc, tous ces petits pas de côté, hein, lors de ces parenthèses temporelles, il nous semble qu'elles peuvent produire des changements. Donc ça, je dirais que c'est une vision un peu plus optimiste que la seule critique.
Vous parliez de des stages permettant de découvrir les plantes comestibles. Dans Retour à l'instinct primaire, donc cette émission dont on parlait, vous montrez que les participants qui essayent absolument de renouer avec le chasseur-cueilleur, qui donc essaye de chasser et de se nourrir de viande, passent complètement à côté de plein de plantes qui seraient très protéiniques, mais notamment chez les participants hommes, la plante, c'est pas très viriliste à manger, et donc ils y vont pas, et voilà. Et donc, cette figure du chasseur-cueilleur, elle est mobilisée pour rien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là des faux savoirs qui circulent dans leur esprit, et ils se plantent. C'est pour ça que je parlais un peu des ratages de l'émission. Qui voudrait dire un mot sur ça, Tristan Fournier?
Oui, bah, tout à fait. Il y a une scène qui est assez croustillante, qui est celle d'un homme assez viril qui essaye d'impressionner un peu sa compagne de route pendant l'émission, puisqu'il se dit être assez compétent en matière de survie. Et il essaye de poser des pièges et il est en train de pester parce qu'ils sont pieds nus, bien sûr, comme ils sont entièrement nus. Il peste parce qu'il est en train de marcher dans une forêt d'orties. Et à aucun moment, il va avoir l'idée de les utiliser, d'en faire des soupes, je ne sais quoi, parce que justement, ces orties-là peuvent, si on regarde d'un point de vue nutritionnel, avoir des équivalences en termes d'apport protéique, notamment, et de fer, de la même manière que la viande rouge, par exemple. Donc, c'est ça qui était assez intéressant à repérer aussi.
Vous avez parlé de l'anarcho-primitivisme et de la survie dont cette émission fait partie. Sébastien Delgalarando, on a un petit peu parlé. Ce qui est frappant quand même, quand on voit un peu voilà, les nouveaux lecteurs de Thoreau, les nouvelles pratiques, vous évoquez notamment un salon du survivalisme en France. Donc il y a un salon du survivalisme en France, vous y êtes allé. Et on croise des figures, on va dire, politiques et idéologiques. On en a un tout petit peu parlé. Je voudrais qu'on s'y arrête quand même, très différent. Qui sont fascinés par ce désir d'ensauvagement. Et donc, dans ce type de salon du survivalisme, on va croiser des militaires, à l'autre bout du spectre, des anarchistes qui veulent vivre voilà, au grand air ou dans une grange, des gens qui sont adeptes de thérapies alternatives. Donc, voilà, on retrouve l'idée du point de jonction. Comment ça fonctionne, cette espèce de nébuleuse politique qui est fascinée par le retour à la vie sauvage. Sébastien Delgalarando.
Je ne pense pas que ça fonctionne au sens où ils fonctionnent ensemble, mais ce salon, comme voilà, c'était très intéressant de s'y balader parce que justement, les gens ne fonctionnaient pas ensemble, ils venaient. Voilà, c'était une marchandisation de cette utopie. Et donc, ils étaient tous là et ils se sont rencontrés plutôt par hasard. Et donc, je ne pense pas que tout le monde était averti qu'au milieu du salon, il y aurait un stand des chasseurs alpins avec des tenues extrêmement effrayantes de camouflage. Donc, tout le monde n'était pas au courant. Donc, on pouvait avoir des 4x4 extrêmement polluants et puis à côté, un stand pour confectionner son éolienne en do-it-yourself. Il y avait des endroits où on pouvait découvrir comment se repérer dans une forêt si on est perdu. Et voilà, c'était vraiment, on avait dans un même lieu toute la panoplie des individus susceptibles d'être attirés par cette promesse du chasseur-cueilleur. Et on a vite réalisé, seulement en regardant, que d'un point de vue politique, on avait un très large panel aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant pour des sociologues, c'est de voir qu'un objet soit suffisamment apolitique pour attirer des courants politiques extrêmement diversifiés. Et donc, il y a un point de rencontre qui était incarné par ce salon, hein, un point de rencontre idéologique qui nous reste à creuser, bien sûr, puisque il n'y a pas grand-chose de commun entre le survivaliste réactionnaire qui fait des stages pour se préparer à l'apocalypse, et un anarchiste qui vit au fin fond de l'Ariège ou du Larzac. A priori, il n'y a rien en commun, mais il y a des sujets sur lesquels ils se rejoignent, des intérêts pour la permaculture, par exemple. Vous voyez, si vous regardez sur Internet, vous avez beaucoup de sites d'extrême droite qui font la promotion de la permaculture. Et vous pouvez aussi retrouver cette pratique au sein d'une ZAD avec des groupes libertaires. Donc voilà, ça nous intéresse. Il y a des points de convergence. On trouvait intéressant de les mettre en exergue et de les analyser plus tard, hein, dans un autre ouvrage. Mais en tout cas, de souligner ces lignes de force et cette convergence.
Voilà. En termes de représentation, quand les gens qui vont dans ce type de salon ou qui ont ce type de pratique, ils sont traversés par l'idée de l'effondrement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui les a gagnés. Et est-ce qu'ils sont aussi gagnés par l'idée qu'au fond, notre mode de vie occidental, citadin, hyper consommateur, serait voué à disparaître et qu'il faut se préparer d'ores et déjà à l'après, apprendre à survivre sans la ville, sans les machines? Il y a aussi cette idée-là, voilà, en termes de représentation, ils ont intégré l'effondrement, Tristan Fournier.
Bah justement, ça rejoindrait une critique de toute cette réflexion sur l'effondrement qu'on a depuis quelques années, qui est celle qui est défendue par exemple par un historien de l'École des hautes études en sciences sociales, Jean-Baptiste Fresseau, qui invite à parler à minima d'effondrement au pluriel. Et ça rejoint un peu ce que vient de dire Sébastien, c'est que je pense qu'il y a, peut-être pas chaque personne, mais en tout cas on peut déceler, repérer tout un tas de groupes différents, par exemple au salon du survivalisme, qui sont nourris d'un effondrement particulier. Donc ça explique aussi cette pluralité, et ça explique que nous on a surtout regardé l'envers du décor, c'est-à-dire comment la promesse est produite. On n'a pas encore de statistiques en fait sur quelles sont les personnes qui sont très intéressées par ce genre de pratique. Ça va venir. Hein. On est en train de travailler sur un second ouvrage. Mmh. Et dans cet ouvrage dont on parle en ce moment, on s'est intéressé à la promesse du chasseur-cueilleur, de l'ensauvagement, etc. Et ce qu'on avait repéré, c'est que chez ces promoteurs, les personnes qui organisent des stages, par exemple, ou celles qui ont un stand au salon du surréalisme, eh bien, il y a une réflexivité là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont capté cette diversité de public et qui sont capables de parler à un public très large, de mobiliser différents registres. Et en même temps, cette mobilisation multiple, elle permet de se protéger de la critique. Dans un stage, je vous donne un exemple, dans un stage de cueillette, on avait par exemple au début du stage le formateur qui part sur une vision un peu ésotérique du rapport des humains aux plantes, etc., en parlant d'amour, de choses comme ça. Et nous, volontairement, on avait été un peu sceptiques, on avait montré qu'on n'adhérait pas tellement à ce discours-là. Et hop, d'un coup, il avait switché sur un discours en mobilisant l'épigénétique, la botanique, des noms latins, etc. Et donc, vous voyez combien les promoteurs sont habitués justement à passer d'un registre à l'autre pour capter ce public très large.
Il y a des stages de survie, il y a aussi effectivement des stages pour apprendre à reconnaître les plantes comestibles. Et puis il y a aussi, et c'est une pratique qui vous intéresse dans votre ouvrage, c'est le développement des stages de jeûne. On en a vu un qui s'est malheureusement terminé tragiquement récemment. Il y a cette idée qu'au fond, renouer avec la nature, c'est aussi renouer avec son propre corps. Et le stage de jeûne fonctionne dans l'idée qu'au fond, ce serait bon pour la santé. Alors qu'est-ce que mettent les participants dans cette pratique du jeûne? Sébastien Delgalarando.
Effectivement, le lien entre la pratique du jeûne et notre thématique de l'ensauvagement n'est pas très évidente pour celui qui n'a jamais fait, bien sûr, un stage de jeûne. Mais en premier lieu, dans cette utopie sauvage ou dans cette promesse du chasseur-cueilleur, il y a un retour au corps aussi. Hein. C'est d'un point de vue anthropologique, c'est très intéressant. Le corps est omniprésent, ses sensations sont très valorisées. Et il y a bien, comme vous l'avez souligné, il y a l'idée de redécouvrir son vrai corps, sa vraie nature, et donc une attention particulière au corps. Et dans le stage de jeûne, un des arguments qui permet de légitimer ce retour de la pratique, c'est de montrer à travers des publications très scientifiques, notamment sur la biologie du vieillissement, que le jeûne, c'est un potentiel de tous les mammifères, possédé par tous les mammifères, et que l'homme aurait quelque part négligé. C'est un potentiel négligé. Et le deuxième axe de démonstration, c'est de dire, bien sûr, la vraie vie, celle qu'il nous faut, c'est celle du chasseur-cueilleur. Le chasseur-cueilleur, lui, il était jeûneur, de fait, puisque parfois il y avait quelques irrégularités dans le transport des alimentaires ou dans la chasse. Donc il avait aussi besoin de faire des soudures, et donc il était engagé dans des jeûnes plus ou moins intermittents. Et donc il y a l'idée que à la fois c'est un potentiel oublié de l'espèce humaine, mais plus généralement de l'espèce animale, enfin des mammifères, et un style de vie, c'est-à-dire jeûner, c'est la vraie vie, en fait, c'est gérer la rareté et ne pas vivre dans l'abondance, voilà. Et donc c'est retrouver sa physiologie de l'homme du paléolithique. Et donc cet ensauvagement-là, il passe par la science, notamment, dans le jeûne, on vend la nécessité d'ensauvager son corps. On pourrait retrouver ça dans des discours sur le nudisme dans les années 50, 30, 20. Voilà. Ce n'est pas très nouveau. Mais le jeûne est vendu aussi de cette manière-là. Retrouver un potentiel oublié, lutter contre une dégénérescence de notre corps en le revitalisant au contact de la rareté, de la faim.
Voilà. Le jeûne servirait aussi à éviter un certain nombre de maladies civilisationnelles, type diabète, obésité, stress, tout ce qui est lié à la malbouffe. Tristan Fournier, sur ce point ou sur d'autres?
Oui, tout à fait. Et puis, je voulais ajouter qu'on avait retrouvé des textes de médecins hygiénistes, notamment aux États-Unis, dans les années 20-30, qui insistaient d'une part sur ce côté animaliste, c'est-à-dire montrer que l'ensemble, en tout cas beaucoup de mammifères jeûnent et que l'homme devrait peut-être le refaire, mais aussi une forme de primitivisme, dans le sens où il y avait beaucoup d'appui sur les peuples premiers qui expliquaient, justement, enfin qui n'étaient pas capables d'expliquer aux premiers anthropologues qui les ont rencontrés que la différence entre déféquer et jeûner, parce que pour eux, ça faisait partie justement d'une manière d'être au monde. Et donc, tous ces médecins hygiénistes avaient pris appui sur et cet animalisme et ce primitivisme pour tenter de démontrer justement la perspective un peu commune, anthropologique de la pratique du jeûne.
Et sur les maladies, alors, l'évitement de la malbouffe, l'évitement de la modernité alimentaire avec tous les produits industriels, il y a aussi ça, c'est-à-dire ne plus faire rentrer ce type de produits très problématiques dans le corps, Tristan Fournier?
Oui, puis on revient, on revient dans cette idée de processus que j'évoquais un peu tout à l'heure, où au bout d'une semaine de jeûne, les stages de jeûne sont souvent commercialisés sous la forme d'une semaine, dans un centre, en groupe, etc., où on randonne également, ça s'appelle jeûne et randonnée en général. Mmh. Et au cours de cette semaine-là, qui est assez longue quand on jeûne, eh bien, les personnes racontent qu'un processus s'enclenche et souvent une contestation peut s'éveiller, c'est-à-dire qu'en arrêtant de manger, on peut devenir un peu empathique des personnes qui n'ont pas assez à manger. On peut on bénéficie souvent durant ces semaines de stage de jeûne de formation en naturopathie, des conférences, des choses comme ça le soir. Et donc, c'est aussi une manière de réviser quelque part notre rapport à l'alimentation. Et ça passe souvent par une critique du modèle agro-industriel.
Donc, y compris quelque chose de très politique, c'est-à-dire jeûner devient un acte politique. Je suis jeûneur, je suis décroissant. Donc, non seulement je me reconnecte avec ma nature primitive de chasseur-cueilleur, mais en plus, j'incite à consommer moins et je le fais moi-même. Sébastien Delgalando.
Ce qu'on appelle une sorte de grève dans la cuisine. Hein. C'est, se libérer de la faim, c'est aussi très symboliquement refuser l'abondance, remettre en question la profusion, se rapprocher de la simplicité. On a bien fait voir, enfin, on a bien démontré aussi que dans la rupture du jeûne, il y avait toute une séquence épicurienne, hein, c'est-à-dire apprécier la valeur des choses, c'est sans priver. On est là dans la pensée illichienne du jeûne. Hein, pour apprécier, il faut avoir manqué. Voilà, donc il y a toute cette dimension ascétique hein, qui est une manière de critiquer, bien sûr, enfin de remettre en cause l'utilité d'un certain nombre d'artefacts qu'il y a autour de nous.
Tristan Fournier.
Et puis c'est vrai qu'on a une certaine ambivalence à l'égard de cette pratique du jeûne parce qu'on a d'une part, il s'agit d'une part d'une pratique qui est commercialisée assez cher. Hein, on a travaillé sur les offres sur Internet. on est arrivé à une moyenne d'environ 680 euros par personne pour une semaine de jeûne. Donc, c'est excessivement cher. C'est le prix d'une semaine de vacances à l'étranger pour ne pas manger. Et en même temps, on observe très concrètement que cette expérience-là peut produire quelque chose de politique par rapport à l'alimentation, mais par rapport à un mode de vie plus largement. Donc, c'est encore une fois cette ambivalence qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. C'est assez compliqué à trancher. C'est, je crois, pour ça qu'on a à la fois une posture critique et aussi une posture plus optimiste.
Alors, vous l'avez dit, il y a effectivement dans votre ouvrage une posture analytique, et puis il y a, on l'entend aussi quand vous vous exprimez, une posture critique sur le fait que, par exemple, effectivement, une semaine de stage de jeûne va coûter très cher. De la même façon, vous montrez que l'ensauvagement peut être extrêmement civilisé et très modernisé par bien des aspects, c'est-à-dire que les gens qui font ça ont toujours des sites web, des applications, on peut les payer en ligne. Il y a une espèce de paradoxe quand même, c'est-à-dire on prend à la culture ce qu'elle peut nous apporter. Et puis on l'instrumentalise pour se réensauvager. Sébastien Dalgalarando.
Oui, ouais. Au-delà de ça, il nous semble que, si on lit par exemple toute cette littérature sur le vivant, le sauvage, sur la nature, on est peut-être un peu aussi confronté. C'est pour ça que nous, on a appuyé sur le côté ordinaire. Voilà. On est face à un discours très élitiste, je trouve. Si on prend par exemple les philosophes qui se mettent en scène dans un rapport ensauvagé avec des ours, des loups, on a l'impression que le sauvage, c'est l'affaire d'érudits qui ont les moyens de pister les grands fauves. Alors que nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les pratiques d'ensauvagement dans le 93 au milieu d'une forêt d'immeubles. Vous voyez, c'est ces problématiques-là qui nous intéressent. Et donc, cet élitisme nous dérange aussi. En tout cas, il fait partie de notre objet d'étude. C'est-à-dire, pourquoi, quels sont les modes de réappropriation du sauvage et qui sont ceux qui en parlent le plus, d'où ils parlent. Et souvent, voilà, il y a une mise en scène, une iconographie très élitiste du rapport à la nature. Donc, c'est pas, voilà, nous, nous sommes très critiques par rapport à cette vision-là.
Oui, vous dites on va aller faire la cueillette de plantes sauvages dans les montagnes et puis elles vont finir dans des tables, sur des tables étoilées très très chères. Donc il y a une forme d'élitisme. Il y a aussi peut-être, on peut terminer par là, l'oubli quand on se réfère aux paléolithiques et aux chasseurs-cueilleurs qu'il y avait à l'époque probablement une très grande insécurité alimentaire et que la vie d'un chasseur-cueilleur, elle n'est pas nécessairement enviable. Tristan Fournier.
C'est vrai qu'on a pas vraiment de statistiques, mais a priori, les chasseurs-cueilleurs du paléolithique vivaient peut-être 30 ans, donc l'espérance de vie était moindre qu'aujourd'hui. Cela étant, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, si on se positionne dans les traces de James Scott, on a quand même pas mal d'éléments paléanthropologiques aujourd'hui pour comprendre que cette vie du paléolithique n'était peut-être pas si horrible, ou en tout cas moins bien que celle du moins des premiers éleveurs du néolithique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, je l'ai déjà dit, une plus grande diversité de ce qui était, mangé. Peut-être qu'il y avait moins de travail. Hein. Les premières cités où on élevait et on cultivait étaient des cités de labeur. Hein. James Scott utilise cette anecdote assez géniale, je trouve, avec la grande muraille de Chine, où il explique qu'elle a probablement servi autant à protéger les États des envahisseurs que d'empêcher les personnes de s'en échapper, parce que c'était des serfs qui étaient obligés de cultiver la terre et c'était très laborieux. Donc il y a toujours encore cette ambivalence qui est compliquée et en même temps géniale à étudier.
Donc ça ouvre des perspectives, et pour citer la fin de votre ouvrage, effectivement, l'utopie sauvage est un horizon, donc on verra de quoi il est fait. Notre émission s'achève, je vous remercie vraiment chaleureusement Sébastien Dalgalarando et Tristan Fournier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, l'utopie sauvage, enquête sur notre irrépressible besoin de nature aux éditions des Arènes, c'est sorti en 2020. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt. There's no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. Mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like
like gravity are places that fall. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure and